Champagne, bonjour. Nous sommes toujours en Seine-Maritime cette semaine, mais j'élargis en ouverture la fenêtre pour vous annoncer une bonne nouvelle dans l'Ouest normand par l'intermédiaire du Conservatoire d'espaces naturels qui intervient dans la préservation d'une centaine de sites naturels situés dans l'Orne, la Manche et le Calvados. Ce dernier vient en effet de signer avec des propriétaires privés une première obligation environnementale en France. Celle-ci engage ses propriétaires pour 50 ans à respecter certaines clauses essentielles en faveur de la biodiversité, à savoir préserver les haies, les mares, ne pas utiliser de pesticides ou de pâturer les plateaux calcaires. Mieux, cette obligation n'est pas attachée aux personnes, mais à la parcelle, ce qui assure une pérennité des pratiques respectueuses, entre autres dans les exploitations agricoles, puisque ce sont les premières concernées. Espérons que le phénomène s'amplifie. Vous pouvez aller sur le site de ce conservatoire d'espaces naturels, CEN pour l'abréviation, CEN, tradeunionnormandie.fr. Et si la campagne s'installait en ville? Deux urbanistes paysagistes de Rouen ont eu l'idée de proposer des outils de création de potagers dans les entreprises. Ainsi est né le projet des cocottes urbaines. Céline Maillard va nous expliquer cette orientation et surtout le choix de ce nom bizarre. Thibaut Georges fut ingénieur agricole avant de reprendre la ferme familiale. Il participe à la restauration d'un moulin historique qui va lui permettre de créer un pain dit patrimonial. Il va également s'en expliquer dans la seconde partie de cette édition.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Céline Maillard, bonjour.
Bonjour.
Je vais faire attention à ce que je dis parce que vous êtes co-créatrice avec Yannick des cocottes urbaines à Rouen. Je dis, je vais faire gaffe parce que je peux pas dire bonjour ma poule parce que là c'est pas bien. Surtout qu'il s'agit pas de ça. Avec Yannick, ça peut prêter à confusion d'ailleurs le nom que vous avez choisi. Vous êtes urbaniste paysagiste, l'atelier Ligne. Et
oui.
Vous proposez à, entre autres des entreprises d'installer là où c'est possible des potagers.
Oui, exactement. Ça nous plaît en fait d'utiliser ces espaces qui sont pauvres à la fois en biodiversité et puis en esthétisme. Mmh. Alors que si on vient installer des potagers, on rajoute une qualité qui est vraiment importante.
Mmh. L'auditeur ou l'auditrice qui nous écoute dit « Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Ça va dans un mouvement des incroyables comestibles, du retour d'une agriculture urbaine. » Et là, bon, là, c'est à travers des potagers, des maraîchers. On va donner quelques exemples. Mais l'auditeur donc peut se dire « Ah, mais ça leur fait un marché de supplémentaire à l'atelier Ligne. »
Oui, c'est exact en fait. Alors, depuis qu'on travaille, on a toujours développé le côté nourricier dans les espaces qu'on concevait, mais c'était un peu compliqué parce que les mairies avaient des craintes sur leurs responsabilités. Et quand on est devenu cocotte urbaine, et ben les portes se sont ouvertes et c'est plus facile aujourd'hui de faire du nourricier.
Alors c'est plus facile de faire du nourricier, mais chez vous il y a quand même une volonté éco-responsable et durable dans la démarche que vous entreprenez.
Oui, en fait on est tombé dans la permaculture, on a rencontré des gens, en particulier la ferme du Bec-et-Loin, et puis après tout un réseau en permaculture. Et c'est vrai que ça a modifié en fait nos méthodes de travail. On est dans la récupération de matériaux, la récupération des eaux. Si on peut faire nos plans, on les fait nous-mêmes. Enfin voilà, on essaye d'être le moins impactant en fait.
Mais alors Céline, dans vos interventions justement, vous concevez, vous dessinez le potager, mais vous n'avez pas nécessairement les compétences en matière d'ingrédients, de produits, d'entretien. Vous avez des professionnels du jardinage?
On a une grande chance, c'est que l'équipe s'est tournée petit à petit à la permaculture. Donc j'ai des géographes, des architectes, des urbanistes, des paysagistes qui ont suivi des formations. Donc ça pour nous c'était important. Et puis après on fait appel à des gens du réseau, des permaculteurs. Donc ça fait depuis 5 à 10 ans qu'ils sont là-dedans.
D'accord. Et alors premier client MTCA. Sotteville-lès-Rouen, société d'audiovisuel, avec un responsable de société qui dit aujourd'hui, bah, une pause légumes est bien plus bénéfique qu'une pause cigarette, ça on veut bien l'entendre. Encore faut-il, il y a des contraintes dans l'espace urbain, on ne peut pas étendre à souhait les espaces potagers. Est-ce qu'il y a des possibilités de terrasses, de conceptions différentes?
Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de travailler en ville et du coup, c'est des espaces, effectivement, qui sont contraints. Donc, souvent, on va aller chercher dans la verticalité. Et les végétaux, qui sont des grimpants, vont pas ramper au sol. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on gagne en productivité en faisant ça. Après, les terrasses, elles peuvent être aménagées. Nous, on avait un projet d'installation d'un maraîcher sur toiture. Après, on a une contrainte de portée de structure, en fait, qui était trop importante.
Ouais.
Et le gros avantage aussi qu'on a en ville, c'est qu'on a des différences de température. On a plus de degrés, en fait, en chaleur.
Exact.
Donc, nos saisons, en fait, en ville, elles peuvent être prolongées ou avancées, en fait.
Merci la pollution, c'est grâce à elle en fait que on garde des températures plus positives en ville qu'en milieu rural.
C'est pas faux, c'est un vrai sujet en fait que vous posez un peu avec ironie, mais la grosse pollution qu'ils vont intégrer, c'est celle des sols. Donc si vous avez une pollution de métaux lourds, plomb, ça peut être dangereux de s'alimenter avec ces végétaux-là. Ouais. Par contre, si votre substrat est ok, même s'il y a une pollution atmosphérique qui va se déposer sur les feuilles ou sur les fruits ou légumes, elle va s'enlever en fait quand vous allez nettoyer les légumes avant de les cuisiner.
Alors pour qui les cocottes urbaines? Pour les collectivités, les entreprises, les écoles, les maisons de retraite, les syndics de copropriété, les bailleurs, mais aussi les particuliers, puisque vous proposez un kit complet pour les particuliers.
Oui, on a mis au point 4 carrés potagers avec des plants de fruits et légumes qui vont se protéger entre eux ou qui vont se booster. Aujourd'hui, on est en capacité de faire une micro-formation en disant aux personnes comment l'entretenir. Et après, nous, on revient 4 mois après pour refaire une rotation de culture.
Les fruits et légumes débarquent en ville avec lescocottesurbaines.fr hein, pour l'adresse. Et puis l'atelier, c'est atelier ligne au pluriel, .fr.
Oui.
Merci
oui.
Céline.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
En novembre prochain se tiendra une nouvelle édition du Salon National de l'Économie Sociale et Solidaire à Niort. Les organisateurs ont eu la bonne idée de déplacer ce rendez-vous qui aura lieu du 6 au 8 novembre au centre-ville pour être plus visible et plus proche des habitants. Et à cette occasion, la CRES, la Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de Nouvelle-Aquitaine, qui copilote l'événement, lance un appel à contribution jusqu'au 29 mai. Donc il vous reste une toute petite semaine. Vous pouvez envoyer une présentation de votre activité, qu'elle soit associative ou coopérative, sur le site du forum. Cette présentation synthétique de 15 à 20 lignes vous permettra d'être invité à ce forum national après approbation par un jury composé des membres de pilotage de ces journées nationales. Vous allez trouver une adresse du forum avec un formulaire que vous allez facilement découvrir sur ce site qui est mis en ligne. Sur le principe de, c'est bien de le dire encore, faut-il le prouver, vous pourrez donc démontrer à quel point votre action, votre entreprise ou votre projet participe aux défis modernes de transition écologique, énergétique, d'accès à la santé ou aux services publics, à la production de commun ou à la transformation numérique, sujet développé hier, ou aux nouvelles formes de travail. Et je ne vais pas citer tous les engagements nouveaux via ces alternatives économiques. Thibaut Georges, bonjour.
Bonjour Philippe.
On va parler avec vous du moulin de l'Arbalète, la restauration d'un moulin qui a vu sur la rivière Lassie, enfin au pied de cette rivière, et à son pied, il a vu passer Jeanne d'Arc, écrivez-vous dans votre courrier, emmenée par les Anglais à Rouen.
Tout à fait, on est sur le chemin du Chasse-Marais qui relie Dieppe à Paris, qui était un chemin qui permettait d'emmener le poisson à Paris.
Oui.
Et Jeanne d'Arc y est passée de retour pour sa triste quémation à Rouen sur son bûcher.
Ouais. Et l'Arbalète n'a rien à voir avec ça?
Non, l'Arbalète n'a rien à voir avec ça. C'est un nom qui existe depuis longtemps parce que j'ai toujours connu ce nom-là.
Ouais. En revanche, vous êtes maintenant paysan boulanger. Je dis maintenant parce que vous avez une formation d'ingénieur, vous avez été chargé de mission dans la grande agriculture.
Oui, c'est un grand mot, la grande agriculture. Mon objectif, c'était de voir comment l'agriculture était, enfin le monde agricole était accompagné, animé, financé. Et donc j'ai bossé effectivement 5 ans pour la communauté d'agglo de Saint-Omer en tant que chargé de mission en zone humide, ce qui m'a permis de voir un peu comment l'agriculture évolue, les besoins des consommateurs, des producteurs. Et du coup, revenir à la maison là depuis cet été 2018 pour mon projet installation.
Ouais. Quelle leçon vous avez tirée de ces 5 ans dans cette agriculture dont vous essayez de comprendre les dessous et le fonctionnement?
Eh ben, c'est que il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent d'arrache-pied. Alors c'est un peu particulier quand même le secteur rocher, parce que c'est des secteurs en zone humide, il y en a peu en France, c'est une agriculture très particulière. sur des choses très techniques sur lesquelles l'animation technique n'était pas forcément très développée, parce que on se rend bien compte qu'on va pas financer un animateur pour 1000 hectares de prairies en zone humide. Mais là, l'agglomération avait pris le parti de soutenir un animateur pour accompagner ce monde agricole. C'est pour ça que je suis revenu sur mes terres natales, parce que l'agriculture est soutenue par le monde agricole, mais pas forcément par les élus ou les fonctionnaires qui n'attachent peu d'intérêt au monde agricole, plutôt au développement économique, la santé, le social. Ce qui est dommage, puisqu'il faut relocaliser pour moi la consommation, la production, avec tous ces enjeux de paysage.
Vous y contribuez complètement, parce que donc vous reprenez la ferme familiale, cette fois en version bio. Vous vous lancez dans la boulange paysanne. Vous produisez vous-même vos blés?
Alors oui, effectivement, je produis mes blés qui sont dits modernes, qui sont en bio. Mais mon objectif, c'est de tester la boulangerie, de me créer mon réseau localement de vente et de commercialisation. Et du coup, j'adhère à l'association Initiative Paysanne du Nord-Pas-de-Calais pour les blés anciens. Et l'objectif, c'est de faire du pain avec du blé ancien. Je vais vendre du Tobias en variété moderne, mais aussi je vais vendre du bon moulin ou du bon fermier pour expliquer aux gens qu'on achète une variété de blé et pas un blé.
Ouais. C'est un changement complet ou alors un retour aux origines, Thibault? Par exemple, on replante des haies alors qu'on les avait arrachées il y a 40 ans.
Oui, ça, chacun a ses tocs. Moi, mon toc, c'est aussi les arbres. C'est beau, c'est vivant, c'est coloré. Et effectivement, c'est au mois de mars, on a replanté 3 km de haies en agroforesterie, donc c'est-à-dire des arbres d'essence noble tous les 10 mètres avec des essences arbustives entre chaque pour créer un petit espace faune-flore entre chaque culture, mais aussi pour le paysage. Moi, je trouve ça, c'est magnifique quand on voit ces arbres évoluer.
Et alors, vous lancez ce mois-ci la première fournée de pain patrimonial.
Oui, alors c'est un peu mon idée, c'est de vendre aux gens qui le souhaitent un pain dans lequel il y a une contribution obligatoire, entre guillemets, mais c'est expliquer aux gens que sur mon pain, il y a 20 centimes qui sont rétribués au moulin pour sa restauration, et de vendre du coup un pain qui est fait sur un four à gueulard. Donc il n'y en a pas beaucoup, des fours à gueulard, c'est on a une gueule qui projette la flamme dans le four, et c'est un moulin qui date de 1748 pour sa première pierre, et c'est de montrer aux gens que le patrimoine qu'on a, il faut continuer à le faire vivre, l'entretenir, parce que c'est nos aînés qui ont sué pour le construire, le faire tourner. Et faire du pain dedans, c'est aussi honorer ces personnes-là et contribuer à financer sa restauration.
Et en fait, le moulin va devenir un lieu de production, mais aussi un lieu d'événement.
Tout à fait, c'est un lieu culturel, touristique et patrimonial. On a des conteurs patoisans du Pays de Caux qui viennent animer. On a Pierre en Lumière, donc c'est des projections de lumière sur le moulin. Il y a Jazz au Moulin, donc il y a tous les mois, de avril à octobre, il y a un événement culturel qui rassemble entre 50 et 300 personnes au moulin. On cuit des viennoiseries et tout ça au bénéfice de sa restauration. Oui.
Ben on va suivre l'actualité moulindelarbalète.com. Il y a la page Facebook aussi avec Thibault Georges. Merci Thibault.
Merci Philippe, à bientôt.
J'évoquais récemment l'Armada de Rouen qui aura lieu du 6 au 16 juin. À cette occasion, Eric vient de nous écrire. Eric est responsable du club d'accueil des marins de Rouen, le Siemens Club de Rouen. Il en existe plus de 200 dans le monde, dans 50 pays, et il manque de bénévoles. Donc il a énormément de difficultés à recruter ses bénévoles. Et afin d'attirer l'attention des visiteurs de l'Armada sur la présence des marins, le club organise une exposition tout proche des grands voiliers qui vont se réunir à partir du 6 mai. Vous allez trouver le lien si vous voulez leur donner un coup de main. On reste en Seine-Maritime avec Nicolas Stoufflet à Sotteville-lès-Rouen, tout proche de là, donc, pour le jeu des 1000 euros.